Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdua pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en téléphone avec Jean-Pierre Gananten. Bonjour.
Bonjour.
Jean-Pierre Gananten, cela fait la deuxième fois que j'ai affaire à vous concernant le comité de soutien pour Vincenzo.
Oui, tout à fait, oui. Oui, donc l'histoire de Vincenzo Vecchi, alors vous commencez à la connaître, je pense.
Oui.
C'est donc un ami à nous qui habite notre village dans le Morbihan, qui est donc sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, avec le risque de faire plus de 12 ans et demi de prison en Italie. Et donc ça fait bientôt 16-17 mois qu'on assure sa défense à travers un comité de soutien dans notre petit village. Et donc aujourd'hui, alors après une... Disons que la cour de Rennes avait donné raison à la défense, la cour d'Angers avait trouvé un compromis assez intéressant pour la défense, entre autres, et donc le procureur avait choisi d'aller en cassation. Or, la cassation a eu lieu ce matin, aujourd'hui, donc 15 décembre, et c'était à 9h ce matin. Et donc, voilà, alors c'est pas encore tout à fait très clair et un peu flou pour nous. Ceci dit, ce qu'on sait, donc, l'arrêt définitif de la Cour de cassation sera rendu le 26 janvier. Donc ça, c'est une certitude à 7 heures. On sait aussi que donc le procureur d'Angers avait souhaité aller sur une notion de bande organisée. Or, ça n'a pas été retenu du tout par la Cour de cassation. Et donc, d'un point de vue juridique, on peut dire que la Cour de cassation nous a donné raison. Alors, quel scénario potentiel maintenant ? Alors, c'est là qu'on est un peu dans le flou. Nous, on voit trois solutions. Soit la cour d'appel confirme l'arrêt de Angers, donc on retourne devant la juridiction d'Angers. Soit cet arrêt n'est pas confirmé, et il est possible que la France fasse appel à la Cour de justice, enfin la Cour de justice de l'Union européenne, pour un avis, voire un recours. Alors, c'est ce qui semble se dessiner, mais ce n'est pas très clair à cette heure. C'est un langage assez complexe pour nous, donc on essaie de décortiquer tout ça. Mais il semblerait que ce soit en gros les scénarios qui se dessinent. Alors ce qui est important pour nous surtout, c'est que la campagne qu'on avait faite pour dénoncer justement la façon dont le procureur essayait d'amener les choses sur une notion de bande organisée, ça n'a pas été retenu et c'est tant mieux. Et je pense que là, le comité a fait un beau travail encore une fois, parce que
Pour des faits qui avaient eu lieu en 2003 en Italie, hein.
Oui, c'était basé donc sur une phrase de l'Italie qui disait qu'il y avait une réunion préparatoire. On a eu les vidéos de cette réunion. C'était pas du tout une réunion préparatoire d'émeute, quoi que ce soit. C'était une réunion qui préparait même une manifestation, la première manifestation, le 19 juillet. Sur les migrants, la défense des migrants. Donc ça n'avait vraiment rien à voir avec une histoire de bande organisée se préparant des émeutes. Enfin voilà, et on a réussi à le prouver assez facilement, mais il a fallu le faire encore une fois. Encore une fois, le comité de soutien a eu un rôle un peu déterminant dans l'histoire, quoi. Alors, donc voilà, aujourd'hui on en est encore à un point qu'il va falloir analyser, comprendre, mais voilà, on sait qu'il ne va pas être remis en Italie, en tout cas tout de suite, et que l'arrêt de la course aura lieu le 26 janvier, l'arrêt de la Cour de cassation. Donc voilà, on en est là un peu aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très clair parce que c'est tout frais dans nos têtes aussi, mais voilà, c'est encore un feuilleton qui se poursuit visiblement.
Comment se passe le soutien pour Vincenzo, en plus de votre comité, au niveau des avocats, comment sont-ils financés?
Alors, c'est de la solidarité entre nous. On fait souvent des appels à financer parce que, voilà, on en est à plus de, je crois, 35 000 euros aujourd'hui. Ce qui pose un vrai problème, hein, c'est qu'une personne isolée pourrait jamais financer une défense, en fait, dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen. Nous, on a pu le faire parce qu'on est un gros collectif et puis qu'on a des réseaux et que, voilà, les aides, jusqu'ici, on arrive à peu près à se débrouiller. Mais c'est une personne seule qui serait isolée, qui n'aurait pas un réseau derrière, n'aurait jamais pu se défendre. ça, ça pose un vrai problème de fond sur le droit à la défense, quoi. Mais bon, pour l'instant, on a réussi à se débrouiller par nous-mêmes, en fait. Ouais.
J'ai lu un article la semaine dernière sur le Canard Enchaîné qui parlait de rappel à la loi. Et que les personnes qui étaient arrêtées lors de manifestations, même si on n'avait aucune charge contre elles, avaient tout de même, en finale, rappel à la loi, mais aussi étaient mises dans le fichier des personnes recherchées.
Oui, alors on a vaguement entendu parler de ça aussi. Alors, je ne pense pas qu'on soit du tout dans le même cas que celui de Vincenzo Vecchi, même si ça concerne quand même la participation à des manifestations. Moi, je pense qu'un rappel à la loi, ça permet... Enfin, vous êtes identifié comme... potentiellement dangereux en manifestation, enfin quelque chose du type qui apparaît sans doute dans le premier feuillet du casier judiciaire, peut-être, je sais pas, je vous avoue que je réponds un peu dans le coup.
Non, un rappel à la loi n'est pas stipulé dans le casier judiciaire.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'était notifié dans l'article également, ça. Mais...
Par contre, on est bien sur la notion quand même du droit à manifester, de la liberté individuelle ou plutôt la responsabilité individuelle. Je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte. Donc on est quand même dans une proximité, on va dire, avec le cas Vincenzo Vecchi, malgré tout, quoi. Ouais.
Enfin, vous avez une alternative qui serait celle du tribunal européen, de la Cour européenne de justice. Comment vous envisagez justement ce nouveau combat et avec quels moyens et quelles sont vos possibilités juridiques?
Alors je vous avoue que c'est encore un peu flou à cette heure. Visiblement, ça reste complexe, mais ce qu'on apprécie quelque... Enfin, on imagine que la France aurait pu prendre ses responsabilités et trancher aujourd'hui. Il semblerait que la France marche sur des œufs un peu sur cette histoire, parce qu'effectivement, ça serait, à travers cette histoire Vincenzo Vecchi, ça serait valider une loi fasciste quand même de 1930. Et je pense que ça pose un vrai problème juridique. D'où le recours peut-être à la Cour de justice de l'Union européenne, permettrait alors de déresponsabiliser la France, mais d'aborder cette dans le cadre de l'espace Schengen, comment ça se passe sur cette double incrimination. En 2001, en Italie, il a été condamné à 12 ans pour dévastation et pillage. En France, il n'y avait pas d'équivalent au niveau du droit. On part sur une responsabilité collective. Enfin, il y a plein de choses qui posent problème. Or, peut-être que la France fait un recours auprès de l'Union européenne justement sur cet aspect-là, sur cette double incrimination en 2001, à l'époque des faits, quel aurait été le jugement en France ou voire en Europe. Donc je pense que la Cour de justice européenne va peut-être devoir se positionner là-dessus, justement, sur est-ce qu'on valide à travers ce cas une loi mussolinienne ou est-ce que c'est pas possible, est-ce que la peine était vraiment disproportionnée. Je pense que c'est ces questions-là qui demande peut-être une réflexion à ce niveau-là, au niveau européen, quoi, aujourd'hui. Mais on va se réunir, bien sûr, dans les jours qui viennent. On va axer notre défense et notre stratégie en fonction des retours de nos amis qui sont à Paris, parce qu'une partie d'entre nous, donc une délégation, était à Paris ce matin. Voilà, on échange depuis par téléphone, mais je pense que ça demande à être affiné, donc il est difficile pour nous aujourd'hui d'avoir une position, je pense, à cette heure. Par contre, on va l'avoir certainement cette semaine, en fonction justement de nos retours et de comment on voit les choses. Mais je pense que ça va beaucoup tourner de toute façon autour de la question de dévastation et pillage, de ce qui est la question du début, en fait, et sur la question de la proportionnalité de la peine, quoi. Aujourd'hui, Vincenzo Vecchi a fait plus de 2 ans et demi de prison pour une simple présence à des manifestations, parce qu'il n'y a jamais eu aucune preuve d'exaction de sa part. Donc voilà, il reste 12 ans à faire, et on espère que ça n'ira pas vers ça, et qu'il a largement payé ce qu'il devait faire. Enfin, nous, on l'estime, quoi. On pense vraiment qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment, lors de ces répressions de Gênes, voilà, on espère bien arriver à ce qu'il s'en sorte. Mais voilà, aujourd'hui on en est là, et je vous avoue que la stratégie va être discutée collectivement, comme on fait depuis le départ. Voilà, et ça sera fait ce début de semaine. Et je pense qu'on va continuer notre communication, parce que je crois que la Cour de cassation a même validé notre travail par rapport justement à cette notion de bande organisée et le fait qu'on ait réussi à aller trouver des vidéos en Italie, encore une fois. Enfin, vraiment dans l'histoire, notre petit comité de soutien a eu un rôle majeur pour la défense de Vincenzo Vecchi, ce qui pose un vrai problème, hein, mais en tout cas, c'était le cas. Aussi vous dire peut-être que l'avantage que ça passe au niveau de la Cour de justice européenne, c'est qu'on sait que même si Vincenzo Vecchi en France est libre, il ne sera pas libre dans le reste de l'Europe, que les mandats d'arrêt européens continuent à courir dans le reste de l'Europe. Donc peut-être que de passer devant la Cour de justice européenne permettrait justement de définitivement éteindre ces mandats dans toute l'Europe. Ça, on ne sait pas à cette heure-ci, hein, mais on ne peut faire que des suppositions, quoi.
Cela fait donc 17 ans que cette histoire a débuté. Depuis, est-ce que Vincenzo a le droit de s'exprimer ?
Le droit de s'exprimer. Alors, il a très peu d'expression pendant les audiences parce que, comme on vous l'a peut-être déjà dit, le mandat d'arrêt européen s'appuie sur une procédure. C'est une procédure administrative et ne va pas dans le fond de l'affaire. C'est ce qui nous a posé problème d'ailleurs depuis le départ. Parce que nous, on estime que le jugement qui a lieu par rapport à Gênes est inacceptable en soi. D'ailleurs, des juges italiens ont même refusé de juger cette histoire en parlant de mascarade. Donc nous, on pense que le problème est au départ, au jugement des délices de Gênes. Mais aujourd'hui, ça va se poursuivre donc. Et excusez-moi, je crois que j'ai un peu perdu votre question en cours de route.
C'était par rapport à la liberté d'expression que pouvait avoir Vincenzo Vecchi. Est-ce que cela est possible pour lui à l'heure actuelle ?
Alors, il est présent aux audiences et donc à des petites plages de temps pour s'exprimer, mais très peu, et comme je vous dis, sur la procédure et non sur le fond de l'histoire. Sa façon de communiquer, je pense que c'est plus à travers le comité de soutien. Voilà, il est présent avec nous, il valide notre stratégie, enfin, on travaille ensemble. Après, c'est quelqu'un de plutôt introverti et qui a peu ou pas parlé dans les médias. Alors, un peu volontairement, parce que la construction du projet de Gênes a été très médiatique en Italie aussi. Lui s'est senti piégé et par la justice italienne et par les médias italiens. Donc, il est un peu frileux à communiquer directement, ce qui peut s'entendre. Mais ceci dit, le comité, justement, porte sa parole à travers lui. Donc, voilà, c'est un choix de sa part. Nous, on aurait peut-être souhaité à des moments qu'il s'exprime plus, mais c'est un choix de sa part. Il a peut-être raison, et puis je pense que c'est beaucoup lié à son histoire en Italie. Voilà, c'est quand même un vrai traumatisme qu'il a vécu, qu'il vit encore, et ça peut s'entendre, quoi. On va faire un communiqué de presse aussi dans la journée, je pense, et puis on va continuer à produire aussi des écrits et des infos via notre site de toute façon, quoi. Ouais.
Voilà, et pour ce qui est du communiqué de presse, vous avez certainement un site internet pour être lu ?
Oui, donc on a toujours notre site, donc www.comité-soutien-vincenzo.org, et donc c'est sur ce site qu'on compile les différents éléments dont on dispose. Et on essaie de l'actualiser très très régulièrement, donc il va être actualisé dans les heures ou les jours qui viennent sur un peu justement tout ce retour de ce qui s'est passé en Cour de cassation. Et si j'ai oublié de vous dire peut-être au départ, la Cour de cassation, il y avait 13 juges de présents, donc c'était ce qu'on appelle une session ordinaire. Et pour nous, ça, c'était important que justement il y a une vraie prise en compte de ce dossier difficile, quoi. Donc on est aussi satisfait, je pense, de la session ordinaire de la cassation, quoi. Ouais.
Juste une petite question en plus. Est-ce que la pandémie du Covid-19 a été problématique pour les procédures tout au long de cette année ?
Elle a été problématique, elle a un peu rallongé la sauce, si on peut dire, parce que l'audience qui a eu lieu à Angers en octobre aurait dû avoir lieu début mars, et en fait, elle avait été annulée et repoussée du fait du Covid. Donc effectivement, il y a eu au moins 6 mois de report de la Cour d'appel d'Angers. Et pour la suite, eh bien, on n'en sait trop rien parce qu'on n'est peut-être pas à l'abri d'une troisième vague de complications. Que va-t-il se passer en janvier ? Enfin voilà. Effectivement, ça joue aussi sur le temps d'attente. Et effectivement, un MAE qui n'a pas été réglé au bout de 16 mois, c'est une première en France. Hein, ça n'est jamais arrivé. Donc quelque chose qui aurait dû être très rapide, en fait, prend énormément de temps. Et là, on peut même se dire que si ça doit aller jusqu'à la Cour de justice européenne, eh ben, ça va prendre encore peut-être 5-6 mois. Enfin, on n'en sait rien. Donc, effectivement, c'est beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps, beaucoup de moyens, du coup, aussi. Ouais.
En tout cas, le moral n'est pas en berne chez vous.
Ben non, c'est un peu, disons, l'ascenseur émotionnel, mais bon, aujourd'hui, on peut dire que c'est alors positif dans l'ensemble. Alors, c'est dur à dire, on mesure pas tout, mais en tout cas, il n'est pas ramené en Italie, ça aurait pu être décidé aujourd'hui. Et donc, voilà, on est plutôt, effectivement, dans quelque chose de plutôt positif, bien qu'on reste interrogatif et on se méfie, parce que depuis le début, ce n'est que rebondissement. Donc, voilà, on est toujours attentif et voilà, on n'a pas encore débouché le champagne, ça viendra un jour, mais on n'y est pas.
Jean-Pierre Guélantaine, je vous remercie de nous avoir donné un peu de votre temps et puis je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Eh ben merci à vous aussi, merci de votre appui et suivi et bonne fête à tout le monde aussi et rendez-vous en janvier sans doute alors.
Überleben. Überleben. Überleben.